Le fils Moga, deuxième partie, chapitre 4. À mesure qu'il s'approchait, le profil des bâtiments de la Joubardière devenait plus précis. On distinguait le colombier en forme de tourelle, les engrangements couverts de chaume, et le toit aigu de la maison d'habitation. En même temps, les chiens se mirent à aboyer. La lumière que les deux compagnons avaient aperçue brillait à la fenêtre d'une pièce du rez-de-chaussée un peu élevée au-dessus du sol et à laquelle on arrivait par un perron de quelques marches. Le percepteur, après avoir apaisé les chiens en les appelant par leur nom et en les flattant de la main, gravit le petit escalier et ouvrit la porte qui n'était fermée qu'au loquet. La pièce était une grande cuisine avec une haute cheminée au manteau de laquelle pendait une lampe à bec dont la lueur vacillante éclairait à peine le milieu de la salle. Assise sur une chaise basse, le dos opposé à la porte, une jeune paysanne était occupée à écosser des haricots dont les tiges encore feuillues formait un amas de verdure à côté d'elle. Elle tourna lentement la tête et tout à coup, apercevant des étrangers, elle se leva effrayée.
« N'ayez pas peur, mademoiselle, »
dit Martial Brossard en secouant son feutre trempé. « C'est moi qui viens m'abriter un moment chez vous avec un ami, à cause de cette maudite pluie qui nous a pris en chemin.
« Ah, monsieur le percepteur !» répondit-elle d'une voix nette et bien timbrée, qui fit tressaillir Étienne jusqu'à l'extrémité de ses talons. « Excusez-moi, j'avais cru d'abord que c'était le père et la mère qui rentraient.
Le père Baillargeon et la Baillargeonne sont donc dehors par ce temps de canard ?
Ils sont allés à l'assemblée de Lézigny pour tâcher d'y gager un petit pâtre, le nôtre étant tombé au sort cette année.
Ils ne tarderont pas longtemps à cette heure.
« Asseyez-vous. Je vais vous allumer une flambée et vous vous sécherez. »
Elle repoussa du pied les tiges enchevêtrées des haricots, avança des chaises, puis jeta sur les chenets une bourrée de sarments et y mit le feu. Les brins secs pétillèrent bruyamment, une vive flamme lécha la crémaillère et, aux yeux des nouveaux venus, la jeune fille apparut, nettement éclairée de bas en haut par cette flambée. On voyait les plis de la jupe d'étamine noire bouffant sur les hanches, la cotonnade brune du tablier à bavette épinglée aux épaules, serrée à la taille et modelant les rondeurs de la poitrine où se croisait un fichu blanc. La lumière dorait légèrement les joues hâlées, faisait rougir les lèvres charnues et scintiller deux yeux noirs. Ses mobiles reflets se jouaient sur son front large, encadré d'épais bandeaux bruns, dépassant la coiffe ronde et tuyautée du bonnet tourangeau. Étienne se sentit envahi par une violente émotion. Il venait de reconnaître Thérèse, une Thérèse paysanne, telle qu'il se souvenait de l'avoir vue un soir dans le jardin de la maisonnette de Dalidan. Le saisissement et aussi un douloureux attendrissement à la vue de la fille du docteur Desroches, réduite à cette condition plus que modeste, le clouèrent immobile dans l'angle de la porte, où une haute armoire à linge l'enveloppait de son ombre. Le percepteur s'était déjà assis à chevauchon sur une chaise et, le dos au feu, séchait sa jaquette dont le drap commençait à fumer.
« N'auriez-vous pas besoin de vous sécher aussi, monsieur ?» reprit la jeune fille en s'adressant au peintre qui ne bougeait plus de son recoin obscur.
« Venez, ne vous gênez point !» Il obéit, sortit de la pénombre et entra non sans embarras dans le cercle lumineux projeté par les sarments enflammés. Thérèse, tout en attirant un escabeau vers le tas de haricots, le regardait attentivement.
Tout à coup, ses yeux brillèrent et ses bras nus serrèrent nerveusement sur sa poitrine une brassée de tiges vertes. Elle aussi l'avait reconnue. Mais son émotion ne se manifesta que par cette illumination des yeux, vive et brève comme un éclair. Ses lèvres restèrent closes, ses cils s'abaissèrent sur ses joues, elle s'assit sur l'escabeau et se remit silencieusement à la besogne, tournant le dos au jeune Moga qui avait pris place au feu en face du percepteur. Étienne, sans réfléchir que lui-même, par son attitude et son silence, n'avait guère encouragé la jeune fille à sortir de sa réserve, était étonné et presque choqué de ce mutisme. « Suis-je donc tellement changé qu'elle ne me reconnaisse plus ?» songeait-il en fourgonnant la braise avec un échalas. « Me garde-t-elle encore rancune du mal fait à son père ? Ou peut-être est-elle gênée par la présence du percepteur ?» Martial Brossard, lui, ne se doutait de rien, étant fort occupé à se sécher sous toutes les faces. Après avoir présenté le dos au feu, il était maintenant en train d'exposer à l'action bienfaisante du foyer les jambes de son pantalon. Appuyant au pied droit de la cheminée le dossier à demi renversé de sa chaise, la tête inclinée en arrière, les jarrets étendus, il étudiait avec une béate satisfaction les effets du calorique rayonnant. Peu à peu, le travail de la digestion s'opérant à l'intérieur et l'ardeur engourdissante du brasier agissant à l'extérieur, ses paupières s'alourdirent. Il ne vit plus que dans un nuage la figure pensive d'Étienne et le profil de Thérèse. Son menton s'abaissa sur sa poitrine et un ronflement, d'abord timide, puis plus sonore, indiqua que monsieur le percepteur Brossard était endormi. La flamme était tombée insensiblement et de légères braises trouant seule l'amas de cendres, la chambre n'était plus éclairée que par la maigre lueur de la lampe à bec. Étienne resta encore un bon moment occupé à observer le sommeil du percepteur, à écouter ce ronflement égal et paisible qui se mêlait au cri grêle d'un grillon derrière l'attaque, au ruissellement de la pluie contre les vitres et au bruit sec des haricots écossais tombant dans un vase d'étain. Puis il se retourna lentement vers la jeune fille, toujours affairée à sa besogne. « Ai-je tellement changé que vous ne sachiez plus qui je suis, mademoiselle Thérèse ? » demanda-t-il avec une intonation un peu tremblante. « Pardon, monsieur Moga, répondit-elle après avoir attendu un instant, comme pour donner à sa voix le temps de s'affermir. « Je vous ai parfaitement reconnu. Pourquoi donc m'avez-vous traité comme un étranger ? Parce que j'ignorais s'il vous était agréable de renouer connaissance avec moi. Vous-même, à ce qu'il m'a semblé, vous n'étiez point pressé de montrer à votre ami que nous nous connaissions depuis longtemps. Vous vous trompez, répliqua-t-il en faisant faire un demi-tour à sa chaise. C'est le saisissement seul qui m'a empêché de vous adresser la parole. Et puis, j'avais peur. Peur de quoi ? Je craignais que votre rancune contre moi ne durât toujours. » Elle secoua la tête. « Oh ! » soupira-t-elle. « Il s'est passé tant de choses depuis. D'ailleurs, je sais maintenant que vous ne pouviez empêcher ce qui est arrivé. » Il y eut un moment de silence. Elle tirait à elle les tiges bruissantes et continuait à ouvrir l'écosse verdâtre d'où les fèves tombaient dans son tablier. « Qu'est devenu monsieur Desroches ? » reprit timidement Étienne. « On l'a arrêté. Il a été transporté en Afrique et il y est mort. Vous n'êtes plus retourné à Saint-Clémentin ? À quoi bon ? La maison était vendue par les créanciers. Je suis resté ici chez ma mère nourrice où j'ai trouvé un toit et du pain. Elle disait cela d'un ton bref, avec une résignation qui serrait le cœur. Étienne courba la tête, presque au niveau des genoux de la jeune fille.
« Pardon, Thérèse, » balbutia-t-il.
« Pourquoi me demandez-vous pardon ? » fit-elle en fixant sur lui ses yeux francs et limpides. « Pour tout le mal que ma famille vous a fait. Celui à qui votre père a fait du mal est mort là-bas, à Lambessa, et lui seul avait le droit de pardonner. Pour ce qui est de moi, je ne puis vous en vouloir, à vous ni à personne, car je n'ai jamais été plus heureuse que dans la condition où je me trouve. »
« Mais vous n'étiez pas née pour la vie que vous menez. »
« Au contraire, » répondit-elle en souriant, « je crois que je n'étais bonne qu'à faire une paysanne. Et j'en suis devenue une vraie cette fois. Voyez mes mains ?» Elle lui montra en souriant ses poignets hâlés et ses petites mains durcies par le travail de la terre. Étienne, malgré lui, sentait les larmes lui monter aux yeux. Elle vit cette émotion et ne lui en sut pas mauvais gré.
« Croyez-moi, » continua-t-elle franchement, « cette vie-là me plaît, et je ne voudrais pas la changer contre une autre.
Mais vous, qu'êtes-vous devenu ? Est-ce que vous habitez maintenant notre pays ?» Il lui conta en quelques mots ses travaux et ses projets. « Je crois, » dit-il en terminant, « que je vais me fixer pour quelques mois à Précigny. « Me permettez-vous de vous venir voir quelquefois ?» Les sourcils de la jeune fille se froncèrent un moment. « Est-ce mon projet ou ma demande qui vous déplaît ?» reprit Étienne. « Ni l'un ni l'autre. Mais dans la vie que je mène, on a guère de loisirs.
Et je ne crois pas que nous aurons occasion de nous rencontrer souvent.
Pourtant, si vous passez parfois devant la Joubardière, vous serez toujours le bienvenu chez nous, » ajouta-t-elle en lui tendant la main. « Pourvu...
pourvu ?»
répéta-t-il. Il lui avait pris la main et la lui serrait affectueusement. « Pourvu que la chose plaise à mes parents nourriciers. Justement, les voici. » En effet, les chiens s'étaient remis à aboyer et une charrette s'arrêtait dans la cour. Thérèse ouvrit la porte et courut au-devant des métayers. Tout ce bruit avait réveillé le percepteur qui se frotta les yeux.
Hein ?
Murmura-t-il. « Vous disiez ?
Tiens, le feu s'est éteint. Et voilà les baillargeons qui rentrent.
Ah, oh, je crois, le diable m'emporte, que j'avais entamé un petit somme. Ma foi, monsieur Moga, s'il ne pleut plus, je ne serais pas fâché d'aller l'achever dans mon lit. »